message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Les sept points fondamentaux de notre vocation céleste. Un beau sujet. Et nous voyons de ce sujet le déploiement de l'amour de Dieu envers nous. Cet amour que nous faisons qu'effleurer, parce que l'intention de Dieu est bien plus que l'amour que nous pouvons lui apporter ou lui donner, bien plus profond. Dans cette vocation céleste, Dieu a commencé par faire un premier point dans notre vie. Il nous a fait participer de sa nature divine, et c'est le point que nous avons vu la semaine dernière. Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, nous avons été appelés à la gloire et par les vertus par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine. Donc aujourd'hui nous pouvons dire, vous et moi, qu'il y a du divin en nous. Non que nous soyons divins, mais la présence de l'Esprit Saint en nous a fait apparaître le divin. Ce n'est pas une prétention, c'est une affirmation. C'est au contraire un chemin pour nous, pour nous faire rentrer dans l'humilité. Comment un Dieu si grand qui remplit l'univers a-t-il voulu habiter en nous et faire sa demeure en nous? Pour cela, il fallait qu'il fasse un acte par lequel il pourrait venir habiter en nous et nous faire participer à sa nature divine. Nous savons que nous avons été enfantés dans le péché, tout cela nous savons que nos mères, nos pères nous ont enfantés dans le péché de l'humanité, le péché d'Adam. Mais Dieu a résolu ce problème, à grand prix d'ailleurs. Il l'a résolu au prix du don de son Fils à la croix, et ce n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas si on pourra cheminer dans ce chemin-là, mais en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur du Père quand Jésus était sur la croix. Comme une espèce de déchirure dans l'unité entre le Père, le Fils et l'Esprit, séparé de Dieu, parce qu'il a été fait péché pour nous. Moi, c'est un mystère insondable. Un mystère qui fait partie du Père, mais qu'il a manifesté pour notre plus grand salut. Le don de Jésus à la croix est un mystère et une réalité en plus. Parce qu'un mystère reste mystère, il ne devient pas réalité. Normalement, il doit rester mystère, mais voilà que mystère devient réalité. Jésus exposé à la croix, portant nos ignominies, portant tous les péchés de l'homme, comme je disais à mon frère tout à l'heure, par une seule offrande, Christ a annulé le corps de péché depuis Adam jusqu'à sa venue. Et ce n'est pas une même chose que d'avoir été chargé de tous les péchés des hommes depuis la création. Contrairement à l'ancienne alliance, je le rajoute parce que c'est peut-être bon de le dire, la notion du pécheur et du péché était traduite par le sacrifice d'un animal qui en fait n'avait pas le pouvoir d'effacer le péché de l'homme, mais il devait être mis en mémoire. Et chaque année, le souverain sacrificateur venait dans le lieu très saint faire l'aspersion du sang sur l'arche pour que Dieu se montre favorable. Le sang de l'aspersion du sang sur l'arche n'était ni plus ni moins que l'ombre du sang de Jésus qui serait versé à la croix ce sang-là qui était aspergé sur le couvercle de l'arche était comme une espèce de garantie que la loi qui était à l'intérieur de l'arche ne nous condamnerait pas. S'il n'y avait pas le sang, ben, nous étions condamnés. Seul le sang de Jésus peut nous ôter la condamnation de la loi. C'est ce que Paul dit. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour nous que nous soyons libérés du poids de la culpabilité et du poids du péché. Je vous en supplie, mes frères et mes sœurs, ne soyez pas accusés. Ne confondez pas le péché et la nature pécheresse. Parce que la nature pécheresse, on y est dedans. On est dans un corps de péché, mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et beaucoup confondent le péché avec la nature pécheresse. Aujourd'hui, le péché est réglé et nous ne péchons plus. Parce que l'Esprit de Dieu nous amène à considérer nos vies, nous amène à prendre une ligne de conduite qui veut être agréable à Dieu. C'est pour ça que Paul dit « pécherions-nous ?» Il dit « non, mais qu'est-ce qu'il advienne ?» Non, on ne péchera plus maintenant. Nous n'avons pas livré nos membres au service du péché, mais nous les avons livrés comme membres de justice pour Dieu. Et ainsi, je vous en supplie, ne soyez plus condamnés par vos péchés anciens. Ils ont été liquidés. Ils ont été traités par Jésus. Le traitement est le meilleur traitement qu'on puisse trouver, purifié par le sang de l'agneau. La vie d'un homme pour un homme. Pourtant, les psaumes disent, un homme peut-il rejeter la vie d'un autre homme? C'est évident que non. Mais Jésus, homme parfait, sans tâche et sans péché, lui a pu le faire. Et ce soir, mon frère, ma sœur, il n'y a plus de responsabilité envers le péché, à part que nous péchions consciemment. Ça, c'est autre chose. Je ne rentre pas dans ce cadre. C'est toi avec ton Dieu. Mais, sur le plan juridique, le problème est réglé. Et puis, nous avons un avocat, le meilleur qui soit. Donc, dans cette grâce du Seigneur, il nous a. Le premier pas qu'il a fait vers nous, c'est de nous rendre participants à la nature divine. Pour cela, il fallait qu'il traite le péché avant. Et c'est ce qui a été fait. L'apôtre Paul va déclarer dans la deuxième épître aux Corinthiens, si j'ai bonne mémoire, au chapitre 5 et au verset 17, il va nous dire ceci, que si quelqu'un demeure en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent, sont faites nouvelles. Donc, les choses anciennes sont passées. Beaucoup de chrétiens se culpabilisent avec les choses anciennes. Ou tu crois que Jésus t'a pardonné et t'a lavé, et à ce moment-là, ça ne t'accuse plus. Ou tu n'es pas certain que Jésus t'ait lavé et purifié. Et ça te pose interrogation. Mais moi, je vais te dire ce soir, si l'Esprit de Dieu te conduit, je te dis une chose, ne regarde plus à ton péché passé, c'est réglé. Définitivement. Si bien que, quelque part dans l'Écriture, dans le prophète Michée, Dieu va dire, j'ai pris vos péchés, je les ai jetés derrière mon dos, au fond de la mer, pour qu'on ne s'en souvienne plus. La seule chose qui peut nous déstabiliser, c'est l'ennemi, quand l'ennemi vient nous accuser. Mais il ne nous accuse pas comme cela, pour le plaisir de nous accuser. Ne lui ouvrons pas la porte pour le péché. Que ce soit en pensée, en acte ou en parole, faisons en sorte que nous soyons agréables au Seigneur. Et si, par malheur, il y a péché, eh bien, il y a confession et puis il y a libération. Jésus est fidèle, amen. Il connaît notre marche, il connaît notre vie. Donc il sait très bien que nous sommes dans une nature faible, mais lui, il est fort en nous pour nous amener à prendre des positions qui lui soient agréables. Le deuxième point dans le fondement de notre vocation céleste est le suivant. Par la puissance de sa résurrection, je répète, par la puissance de sa résurrection, nous atteignons le grand but que Dieu s'est fixé pour nous, à savoir d'être rendu conforme à son image. Et vous dites, mais pourtant je me regarde à la glace, apparemment je n'ai pas changé. Oui, mais il y a des changements. Parce que ce n'est pas ce qui est extérieur qui va demeurer, c'est ce qui est intérieur, l'homme spirituel que Dieu crée, qu'il renouvelle chaque jour. Comme dit Paul, si notre être extérieur dépérit chaque jour, et on y voit les rides, hein, il y en a beau mettre la pommade anti-rides, les rides y sont, hein, même si l'être extérieur dépérit chaque jour, l'être spirituel, l'homme spirituel se renouvelle chaque jour. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que tu vas mourir, mais ce qui restera, c'est la création que Dieu a faite en toi. Alors pourquoi prendre tellement soin de notre aspect extérieur, de tout ce que nous sommes ? La balance pour les kilos, le truc pour les machins. Oui. Peut-être que si nous avions l'objectif d'être agréable à Dieu et de tout faire pour que l'homme intérieur grandisse, toutes ces choses passeraient. Quand je regarde vers Jésus, si je lève mes yeux vers Jésus, dit le petit cantique, les choses de la terre pâliront peu à peu. Vous le connaissez ce petit cantique ? Si je lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si je lève vers Jésus les yeux. Et maintenant, chaque fois que tu baisses les yeux vers la terre, c'est là où tu commences à patiner dans la choucroute. Chaque fois que nous détournons les yeux du Seigneur, chaque fois nous nous trouvons devant quelques petits problèmes qui n'auraient pas lieu d'apparaître. Mais nous allons voir que notre vocation céleste aussi va nous amener à une telle confiance envers Dieu qu'à un moment donné, nous avons déposé les armes, car nos armes terrestres sont charnelles, mais les armes spirituelles, elles sont puissantes par Dieu. Amen. Oui, c'est ça. Déjà, en Genèse, au chapitre 1 et au verset 26, Dieu avait déclaré une chose assez extraordinaire. Genèse 1, 26, vous connaissez très très bien ce passage, où il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Alors nous pouvons dire qu'au départ de la création, Adam et Ève avaient réellement l'image de Dieu en eux. Ils avaient cette image que nous allons retrouver quand le Seigneur va nous amener vers lui, où nous serons transformés de corps corruptible en corps incorruptible. Nous passerons de la corruption à l'incorruptibilité et nos corps auront plus les contraintes terrestres mais auront les attraits célestes et nous serons à ce moment-là à l'image de Christ. Car l'Écriture me dit, et sur quoi je m'appuie pour dire ceci, tel il est, tel nous serons. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45, 50, etc. Donc, il y a quelque chose que Dieu veut. Il veut recréer en nous l'image du céleste que nous avons perdu à cause du péché. Le péché a terni l'image de Dieu dans l'homme. Et l'image de Dieu s'est estompée dans l'homme au profit de l'image de l'homme pour l'homme. C'est d'une grande... Quand je dis ces choses, je m'aperçois comment l'homme est l'artisan de ses propres problèmes. Je dis souvent que nous gérons les conséquences de nos inconséquences. Et quand Adam et Ève se sont laissés tenter, séduits par le serpent, ils ont détourné le regard de l'Éternel et c'était fini pour eux. Je vais te dire, chaque fois que tu détournes le regard de Dieu, tu vas te trouver devant un problème. Tu vas te trouver devant un problème parce que l'ennemi sera là pour te dire, alors tu peux faire ce que tu veux, mon beau. Puis Dieu va te pardonner, ne t'inquiète pas, vas-y, fais. Nous devons fermer nos oreilles à ces murmures de l'ennemi. Vous savez que nous avons tendance à murmurer chaque fois que nos sentiments viennent se mêler au milieu de notre relation avec Dieu. Je voudrais vous rappeler que la tentation d'Ève a été sur le plan psychique. Le diable a fait son discours fallacieux. Il les a, roulés dans la farine. C'est une expression qu'on dit dans le monde. Il a été roulé dans la farine, c'est-à-dire qu'il s'est fait avoir, quoi. Et il a dit, vraiment, Dieu a dit ça, et puis vous serez comme des dieux, vous connaîtrez les choses. Et un des grands problèmes du chrétien, c'est l'orgueil. C'est de vouloir être comme des dieux. Ou même peut-être, par sa connaissance, supplanter Dieu. On ne sait jamais. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la nature humaine. C'est le péché à l'origine. Mais nous savons bien que notre Dieu est un Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. Donc Dieu a voulu nous créer à son image. Et voici ce que va nous dire l'apôtre Paul dans les Philippiens au chapitre 3 et versets 12 à 14. Il va nous dire ceci. Philippiens 3, versets 12 à 14. Merveilleuse épître de Paul, une épître que j'aime personnellement. J'en ai plusieurs dans l'écriture que j'aime. Mais celle-là, avec l'épître aux Hébreux, c'est une de mes préférées. Parce qu'il y a des choses dedans d'une tellement grande profondeur. Paul nous dit des choses tellement grandes. Béni soit Paul qui a parlé de la part de son Seigneur. Philippiens 3, versets 12 à 14, dit ceci, et c'est Paul qui parle. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis. T'entends, Église? Tu n'es pas encore venu à la perfection, mais tu poursuis le but. C'est bien notre frère qui nous disait ce matin, dimanche matin, il nous disait, péché c'est manquer la cible, c'est manquer le but. Le but que Dieu nous a assigné, nous le manquons, donc nous sortons en dehors de sa volonté et nous péchons. Paul dit qu'il poursuit ce but, cherchant à le saisir. Vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frère, pour moi, dit Paul, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant moi, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Je cours droit au but. Avec effort. Vous savez que nous devons travailler à notre salut. Avec crainte et tremblement, comme nous disions dimanche. Sachant que crainte et tremblement, c'est notre lot. Moi, je sais que je crains et je tremble parce que je sais que je suis faible. Et je travaille à mon salut. Avec crainte, connaissant ma faillibilité en tant qu'homme, en tant que pécheur. Mais je poursuis le but. Je dis, c'est pas que je l'ai saisi, mais je fais tous mes efforts. Et dans mes efforts, il n'y a aucune place pour les choses annexes et connexes du monde. J'ai un but à atteindre. Et les choses du monde ralentissent ma marche. Il faut que j'aille et que mon regard soit fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi, qui va m'amener, lui, à la perfection. Voyez, Paul disait qu'il faisait tous ses efforts. Quand nous connaissons la vie de Paul, ce héros de la foi, un bien-aimé frère dans le Seigneur, je demande au Seigneur de me le faire rencontrer dans le ciel. Parce que j'aime Paul, j'aime cet homme qui est vrai, qui dit la vérité. Il ne s'embarrasse pas de préjugés. Vous saviez cet homme-là, ce Paul-là, vous semblez vraiment le méconnaître, je vous le dis honnêtement. C'est un héros de la foi. C'est un homme sublime que Dieu a suscité. C'est un homme qui était érudit. Il aurait pu même dire à Jésus, je n'ai pas besoin de ta révélation, je connais toutes choses. Il était tellement intelligent, tellement instruit dans les choses de Dieu. C'était sa vie. Il nous est dit qu'il était le plus avancé de tous ses frères, le plus intelligent, le plus doué de toute sa génération. Il avait fait ses études au pied de Gamaliel, le plus grand, un des plus grands maîtres d'Israël du temps de Paul. Gamaliel, fils de Siméon, qui avait porté Jésus dans ses bras au temple. Siméon, fils de Hillel, que Jésus avait enseigné à l'âge de 12 ans sous le portique. Imaginez la scène. Mais ce Paul-là, cet héros de la foi, cet homme qui nous a laissé des enseignements si précieux, si doux à notre cœur, qui des fois aussi nous font réagir, frères et sœurs, parce qu'il dit des choses fortes, Paul. Eh bien, je vous dis ce soir, cet homme, il faisait tous ses efforts. Et mon frère, ma sœur, il faut que tu fasses tous tes efforts. Ne crois pas que rentrer dans le royaume de Dieu, c'est comme un ticket que tu aurais pris à une caisse enregistreuse pour dire voilà mon billet, je rentre dans le royaume. C'est pas ça. Puisque Pierre va dire, mais ajoutez par exemple, il va dire, puisque nous avons ces merveilleuses promesses, il va dire, ajoutez à la foi la vertu, à la vertu, ajoutez la patience, à la patience, ajoutez la tempérance, il va dire, et à cela, ajoutez l'amour fraternel, et en fait, ajoutez l'amour tout court. Et si ces choses abondent en vous, ça ne vous restera ni stérile, ni oisif pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre disait ça. Ajoutez, 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 ajoutez. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Dans ta vie d'enfant de Dieu, qu'est-ce qui te manque? Patience, demande-la à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qui la demande à Dieu? Si quelqu'un manque de patience, qui la demande à Dieu? Demandons au Seigneur qui donne abondamment à tous. Et nous avons besoin de ces vertus du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces choses dans l'Esprit Saint, car nous sommes confrontés à des problèmes quotidiens de notre vie, à des attentes dans notre vie, et nous croyons que ça va se passer comme ça, et ça tarde, et ça tarde, et ça tarde. Alors oui, ça tarde, parce que Dieu est en train de te former. Sais-tu que la patience est formatrice? L'impatience est un signe, excusez-moi, l'impatience est un signe d'immaturité. Je parle spirituel, mais aussi je parle terrestre. Et quand on est impatient, on est exposé à toutes sortes de problèmes, à toutes sortes de déconvenues. Paul va dire, dans l'épître qu'il adresse à ses frères, les Corinthiens, avec lesquels il a quelques mailles à partir pour qu'ils marchent tout droit et bien droit dans la foi, vu que dans cette église, c'était un petit peu quelque chose qui n'était pas correct devant Dieu. Et vous connaissez toute l'histoire de Corinthe. Voilà, dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 18, voici ce que Paul va déclarer. Quand je me regarde, quand je vois ce que je suis, et que j'entends ce que Paul dit, je me dis, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu me transformes encore. Mon salut, c'est bien Seigneur, tu me l'as donné, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que je sois transformé de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Et voilà ce que Paul va nous dire dans 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 18. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire par le Seigneur en esprit, dans la même image que le Seigneur. Par la puissance de sa résurrection, nous atteignons le grand but que Dieu s'est fixé pour nous, à savoir d'être rendu conforme à son image. Car Christ lui-même est l'image invisible de Dieu. Il nous est dit dans Colossiens 1,15 qu'il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que, est-ce que Dieu ressemblait à Jésus dans son humanité? Non. Mais Dieu le Père ressemblait à Jésus dans tout ce que Jésus faisait. Grâce et miséricorde, et compassion et amour, et guérison, et résurrection, et libération. Voilà l'image de Dieu en Christ. Et c'est l'image de Dieu habite en toi, mon frère, ma sœur. Si l'image de Christ, le Tselem, l'image invisible de Dieu, habite en toi, alors tu dois rentrer dans les mêmes œuvres que Dieu a faites. Tu peux guérir les malades, tu peux ressusciter les morts, tu peux guérir les lépreux, tu peux faire miséricorde, tu peux être compassionnel, tu peux aimer. Car le signe évident d'un vrai enfant de Dieu, c'est l'amour qui est en nous. Je ne parle pas de l'amour charnel. Je parle d'un amour compassion, d'un amour de l'Esprit Saint. L'amour du Saint-Esprit qui nous fait regarder comme Jésus regarde quand il pose son regard sur une âme. Nous avons toutes tendance à juger les gens. Quand nous posons nos regards sur un nouveau converti ou quelqu'un qui rentre dans l'église ou quelqu'un qui est là depuis longtemps dans l'église et que nous connaissons un peu sa vie, nous avons tendance à poser des regards qui ne sont pas compassionnels, qui sont des regards de jugement. Jamais Jésus n'a jugé personne. Même avec la femme pécheresse, il ne l'a pas jugée. Il a dit, va, mais ne pêche plus. Il n'a pas dit, tu mérites la lapidation, tu mérites quand? Non, 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 non. Et nous, avec notre bon sens chrétien, recouvert d'une bonne couche de charnel, alors nous exerçons soi-disant notre piété avec des yeux de chair et non pas les yeux de l'esprit. Hébreux 1.3 va nous dire que le Christ, qui est le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, Hébreux 1.3, il est le resplendissement de sa gloire. Quand tu vois le soleil au plein zénith, au soleil haut élevé dans le ciel, et que tu vois les rayons du soleil, Jésus est le reflet de la gloire du Père. Jésus est les rayons du soleil du Père sur la terre. Il est le resplendissement de sa gloire. Il est l'empreinte. Il est l'empreinte. Il est l'empreinte, le sceau indélébile du Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Il est l'empreinte digitale du Père. Allez, je dis ainsi. Pourquoi pas? Il est l'empreinte du Père. Comprenez, frères et sœurs, à qui nous avons affaire? À celui qui veut nous communiquer sa nature divine. Qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux, qui a accompli et qui a fait par lui-même la purification des péchés. Et l'offrande de Jésus a été faite une fois pour toutes pour le péché. On n'y revient plus, c'est définitif. Il s'est offert une fois pour toutes. Et par une seule offrande, il nous a sanctifiés tous qui sommes ici ce soir. Il nous a mis à part pour lui. Tu devrais, et nous devrions regarder l'œuvre du Seigneur comme étant merveilleuse. Parce que nous sommes tellement partagés entre le spirituel et le naturel que nous avons notre tendance à mélanger les deux. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et chaque fois que nous tournons nos yeux vers le naturel, nous prenons du naturel pour en faire une excuse pour le spirituel. Eh bien, je dis que ça ne devrait pas être. Parce que Paul dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est pour cette raison-là que l'apôtre Paul avait un ardent désir de connaître davantage la puissance de sa résurrection et la conformité à sa mort. Oui, Paul, il cherchait ces choses. C'est en vue de ce but qu'il désirait connaître et expérimenter une mesure toujours plus profonde de sa résurrection. Il faut connaître les profondeurs de la résurrection de Christ pour connaître notre propre résurrection, frères et sœurs. Après ayant atteint ce but en vue, l'apôtre était prêt à endurer n'importe quelle épreuve pour parvenir à cette destination. À cette destination, quelle destination ? Une mesure toujours plus profonde de sa résurrection. Parce que Paul savait qu'il était mort et enseveli avec le Christ, mais il savait que la puissance de la résurrection lui était donnée, comme elle nous est donnée à nous, et qu'il nous fallait découvrir quelle était cette puissance agissante dans nos vies. C'est pour ça qu'il nous disait, j'étais mort avec Christ, j'ai été enseveli avec lui et j'ai été ressuscité avec lui. Quelle proclamation que vous-même avez vécue lorsqu'on vous a trempé dans un bain d'eau pour vous baptiser. On va dire, allez, on va te tremper, ça y est, tu appartiens à Jésus. Mais oui, oui, oui. Alors, ce qu'on a oublié de te dire, c'est que là, tu vois, en bas, dans le fond, là, quand on t'a immergé, alors l'acte spirituel, c'est que tu es mort dans le Christ. Ça veut dire que il y a 2000 ans, tu étais avec lui sur la croix, crucifié avec lui, et que tu as été enseveli dans le tombeau avec lui, parce que Christ n'était pas seul au tombeau. Il avait toute l'humanité sur son cœur avec lui. Et quand il est ressuscité du tombeau, il a ressuscité avec lui tous ceux qui ont part à la résurrection. Ce n'est pas une petite œuvre qu'il a faite. N'adorez pas un petit Jésus, s'il vous plaît. Adorez un grand Christ. Notre frère et notre ami. Celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Premièrement, participant de sa nature divine. Secondement, par la puissance de sa résurrection, nous atteignons le grand but que Dieu s'est fixé pour nous, à savoir d'être rendu conforme à son image. Écoute-moi, Église, dis ce soir que tu es conforme à l'image de Christ. Et tu ne fais pas une déclaration qui soit trop haute, hein. C'est une réalité. Je suis rendu conforme à l'image de Christ. Dis-le. Chaque jour, Jésus est en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Si tu mouais, tu es attaché à Jésus. Si du moins, comme dit Paul, et Paul le dit, comment se fait-il qu'il y a des conditionnels, des si du moins? Comment se fait-il que dans l'Écriture, il y ait des si? Moi, je croyais que dans l'Écriture, il n'y avait que des affirmations. Mais non, Paul, il va dire, si du moins, vous êtes fondé, établi et enraciné dans le Christ. Et si vous demeurez dans l'Évangile qui vous a été prêché. Sinon, non. Si tu n'es pas fondé, si tu n'es pas établi, et surtout, si ta vie n'est pas enracinée dans le Christ, que tu as des petits surgeons, certaines racines ressortent en dehors de la terre, certaines sont dans la terre, tu vois, un peu elles respirent l'air du monde, et puis elles respirent l'air du royaume. Ce n'est pas bon. Tu ne porteras pas du fruit à la gloire du Seigneur. Troisièmement, c'est par cette même puissance de sa résurrection qu'il nous sera donné pour finir un corps de résurrection. Un corps de résurrection. Alors, tu n'arrives pas à l'imaginer, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une réalité parce que Jésus, lui, est ressuscité. 500 personnes l'ont vu, quoi. Il a mangé avec ses disciples. Ils ont vu Jésus ressuscité. Un corps de résurrection qui lui permettait de rentrer dans une pièce, se présenter devant les disciples. Il n'avait pas frappé à la porte. Tout d'un coup, je tiens devant les disciples. Un corps de résurrection qui n'a plus les contingences de la terre. Un corps qui est dans les normes du royaume. C'est ce corps que nous aurons. Dans le ciel, nous n'aurons pas à aller voir Dieu. Nous serons en communion directe avec lui. On n'aura pas à demander des audiences. Jésus sera toujours avec nous. Où que nous soyons, il sera avec nous. Avec toi, avec moi, il sera là. T'inquiète pas. Alors nous allons développer ce troisième point. C'est par cette même puissance de sa résurrection qu'il nous sera donné pour fournir un corps de résurrection. Romains 8, 11. Regardez comme c'est beau. Vous lisez la parole de Dieu. Franchement, délectez-vous de ça. C'est un véritable festin. C'est une véritable merveille que de goûter à la parole du Seigneur. Romains 8, 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Et je répète, vous voulez que je vous répète ça? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. La bonne nouvelle. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, il vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Habitez en vous. Habitez en vous. En vous. Dieu tabernacle en nous. Il a dressé sa tente en nous. Il a fait sa maison en nous. Comment l'infiniment grand, l'infiniment, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais même mon frère Pellone ne pourrait pas vous expliquer cela. Celui qui remplit toutes choses, tout l'univers qu'il a lui-même créé, habite en nous. Comment l'infinie plénitude peut-elle résister dans l'infinie finitude que nous sommes? Par cette puissance de résurrection par laquelle le Seigneur Jésus lui-même est ressuscité, par cette puissance qui est déversée en nous, nous recevrons finalement un corps nouveau, un corps de résurrection. Et c'est à cause de cela que Paul priait. Et Paul y priait pour cela. Voilà des prières qu'il nous faut faire à Dieu. Vous cherchez des prières. Et ça en est plein, l'Écriture, c'est qu'une prière. Regardez, Éphésiens 1, versets 19 à 20. Éphésiens 1, versets 19 à 20. Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La puissance de sa force. Vous rappelez cette image dans l'Écriture? Ça vous fait penser à rien du tout? Le prophète Ézéchiel, il n'a pas vu la vallée des ossements ressusciter à la parole de l'Éternel? Alors je vous annonce autre chose. Tous ceux qui se font incinérer par le feu pensent qu'ils vont pouvoir échapper à Dieu. Alors, on les jette dans la mer, on les jette où ils veulent, dans le jardin du coin. Dieu appellera à l'existence ce qui n'existe pas. Et comment ne va-t-il pas appeler à l'existence ce qui a déjà existé? Ah! Lazare! Lève-toi! Mais Seigneur, pas possible. Ça fait 3 jours qu'il est mort, il sent. Il se décompose. Marie, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare, lève-toi! Il a crié fort. Tu sais pourquoi il a crié fort, Virginie? Parce qu'il est dit dans l'Écriture que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Tous les morts sur la surface de la terre, ils vont entendre. Imagine la clameur qui va être donnée à ce moment-là. Tous les morts aux 4 coins de la terre, sous la terre, dans la mer, sous la mer, tout tu voudras, ils vont revenir à la vie pour être jugés par le Seigneur. La bonne nouvelle. La puissance de sa force. Tu dis que la lumière soit. La lumière fut. Non, 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 pas fut. Était. C'est faux. Le texte est faux. La lumière était. Parce que la lumière existait déjà. Car Christ, il préexistait déjà. C'est lui, la lumière.
selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ pour le ressusciter d'entre les morts. La puissance du Père qui a ressuscité son Fils. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ne vous avait-il pas dit qu'il ressusciterait le troisième jour? Cette puissance de résurrection est répandue dans notre cœur à l'instant de la nouvelle naissance. C'est en germination en nous, cette puissance de force de résurrection. Dieu l'a mis dans notre cœur dès que nous sommes nés de nouveau. Pas quelle bonne nouvelle! Même pas tu y pensais, n'est-ce pas? Toi, je suis sauvé, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut. Mais quand tu es né de nouveau, Dieu a mis la puissance de sa force dans ton cœur pour la résurrection. À l'instant de notre nouvelle naissance, elle continue à se manifester et à agir en nous jour après jour jusqu'à ce que nous soyons rendus conformes à son image. Alléluia. Je ressuscite pour aller de progrès en progrès, pour être transformé de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Tel il est, tel nous serons. Quelle bonne nouvelle! Tu vas te regarder à la glace, Virginie, et tu vas dire, c'est plus moi, Virginie. C'est Christ en moi. Alléluia! Je parle à Virginie, il n'y a pas qu'elle, bien sûr, il n'y a pas qu'elle. Quelle grâce. C'est ainsi que durant notre vie terrestre, nous sommes de plus en plus, jour après jour, rendus participants de la nature divine. C'est aussi par cette nature divine que se développe en nous un amour, une affection progressant pour les choses célestes, pour les choses d'en haut. Amen. Plus nous avançons et plus nous avons de l'amour pour les choses d'en haut. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens, aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 1 à 2. Colossiens 3, verset 1 à 2. Voilà ce que Paul va affirmer. Quelle vraie merveille! Paul va dire dans Colossiens 3, verset 1 à 2, il va dire ceci. Si donc, Colossiens 3, verset 1, 2. Si donc, vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Frères et sœurs, combien de fois je vous ai dit, mais arrêtez avec le monde. Les éléments du monde, c'est ce qui prennent l'homme au piège. Le monde, avec ses convoitises. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont de le monde. Celui qui aime le monde se constitue ennemi de Dieu. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Dixit Paul, pas Francis, Paul. Paul nous donne ce conseil merveilleux. Fixez vos yeux sur les choses d'en haut. Car vous avez en haut un héritage immarcessible, incorruptible, un héritage qui est pour l'éternité. Vous avez un héritage qui vous appartient, qui m'appartient. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Nous avons un grand héritage.
aussi profond que l'azur des cieux, aussi loin que les extrémités,
des extrémités de l'univers. Tout est à vous et tout est à Christ. Tout vous appartient. Tout vous appartient. Tu te rends compte comment tu patines dans la choucroute, toi, en bas sur la terre? J'ai tellement tes yeux fixés sur ton bien-être, sur l'esclavage que Satan a mis sur ta vie, car toutes les âmes de cette terre, y compris les chrétiens, sont esclaves de mammon. Il n'y en a pas un qui n'a pas un dossier de crédit. Nous sommes tous esclaves des banquiers. C'est pour ça que Jésus a dit, rendez à César ce qui appartient à César et à mammon ce qui appartient à mammon. Il n'y a rien à voir, mammon, avec Christ. Rien à voir, rien à voir. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, pardon, et à César ce qui appartient à César. Mais le Seigneur dit, mais quelle différence y a-t-il entre Dieu et mammon, hein? Et pourquoi il dit mammon? Pourquoi il n'a pas dit autre chose, le Seigneur? Parce qu'il sait très bien que c'est l'argent qui domine et qui gouverne et qui régente le monde. Et quand tu as mis ton cœur dans le fric, c'est dur d'être délivré de cette passion de l'argent. Parce qu'il en faut plus, il en faut plus, il n'y en a jamais assez, il n'y en a jamais assez, il en faut plus. C'est comme la sangsue, elle a sept enfants. Donne, 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 j'en veux, jamais rassasié. Alors Paul, il nous dit, ah, vous travaillez pour peu de choses, n'est-ce pas? Oui, vous travaillez pour peu de choses parce que moi je vous dis que vous devez penser aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Cherchez les choses qui sont en haut, le Christ est assis à la droite de Dieu. Si, écoutez bien, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, voilà le point central de la question. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, alors ne cherchez pas les choses d'en bas, cherchez les choses d'en haut. Mais si vous n'avez pas la puissance de résurrection dans votre vie, si vous n'avez pas la nouvelle naissance, vous allez chercher les choses d'en bas. Le principe jouissif des choses d'en bas, c'est que la sangsue, elle est insatiable. Donne, donne, je prends tout ce qui satisfait. Et vous avez vu comme l'homme est un insatisfait perpétuel. Quand il a la chose qu'il désire, après l'avoir tant convoité qu'il a, un mois après, comme les mains d'un bébé, il casse la chose, il la met de côté et continue en une autre chose. On passe à autre chose. Mais c'est comme ça, pas seulement dans les choses matérielles, mais dans les choses de la vie. On prend une femme, on prend deux femmes, on prend un homme, on prend deux hommes. Jamais satisfait. Pourquoi? Parce que la seule satisfaction que nous ayons, c'est par exemple une alliance dans le mariage fait comme Dieu le considère. Pas comme nous voulons. Parce que, je m'excuse, quand ça chauffe, ça chauffe. Mais le Seigneur veut nous donner de la modération en toute chose. Cherchez les choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Ainsi, la première étape de notre union et de notre participation à Christ, c'est la réception de la nature divine. En nous appuyant sur les promesses de sa parole, nous nous les approprions par la foi, nous entrons progressivement et de plus en plus dans la réalité de cette nature divine, jour après jour. Ce sont ces grandes et précieuses promesses, afin que par elles, nous participions de la nature divine en ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Nous avons une telle vocation, frères et sœurs. Je suis heureux. Avoir une vocation, c'est d'être appelé à quelque chose qui est de l'ordre divin. Ma vocation céleste. Et ce n'est pas moi qui vais me transformer, c'est pour cela. C'est Dieu qui va me transformer pour rentrer dans cette vocation. Mais à moi de faire ma part dans les choses dans lesquelles je dois me séparer pour être digne. Paul va dire, soyez dignes de l'appel dont vous avez été appelés. Notre dignité, elle vient dans le fait que nous obéissons à Dieu. Alors la nature divine va se développer en nous. La puissance de la résurrection va agir en nous, dans notre cœur. N'est-ce pas une grande grâce que nous avons? Frères et sœurs, est-ce que la parole de Dieu ne nous encourage pas? Peut-être que ce sont des sujets que l'Église n'a pas abordés, mais c'est d'une telle réalité. C'est dans la parole. C'est ce que nos frères, les apôtres, nous ont enseigné. Eux qui ont vécu ces choses. Eux qui nous ont instruits dans ces choses. Pourquoi nous disent-ils ces choses? Parce qu'ils les ont vues, ils les ont vécues. Et aucun d'entre nous, que je sache, n'a eu la tête tranchée, ni a été crucifié, ni a été crucifié la tête en bas. Aucun d'entre nous. Pourtant, nous ont laissé un tel testament, un tel message, dans lequel nous ferions bien d'y prendre garde. Parce que une personne avertie en vaut deux, selon le dicton, et que vous êtes très, très et hyper responsable de tout ce que vous entendez. Attention à la manière dont vous entendez. Parce que le Seigneur, lui, ce soir, il a enregistré, nous on a enregistré sur cet ordinateur, mais lui il l'a enregistré en haut. Il sait qui c'est qu'il y avait dans cette salle aujourd'hui. Tous ceux qui ont entendu. Il le sait. C'est pas que je vous culpabilise, c'est que je vous mets devant votre réalité et votre responsabilité devant le Seigneur. Ce qui est d'autant plus pour moi grave, c'est que sachant les choses, nous ne le fassions pas. Ok. Donc ce soir, nous arrêtons sur ce troisième point. Il y en aura encore quatre autres à voir dans les prochaines semaines. Nous allons avancer progressivement. Alors le matin, quand tu te lèves, tu peux dire, je te loue de ce que tu m'as fait participer à ta nature divine. Seigneur, regardez une belle prière. Je te loue de ce que tu as mis en moi, la puissance de ta résurrection, et que tu me transformes, Seigneur, chaque jour à ton image. Vous ne croyez pas qu'on a des chapelets de prière à faire devant le Seigneur? Il n'y a pas besoin de les inventer. Seigneur, je te prie parce que j'ai besoin d'une trottinette demain pour aller travailler. Mais je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis parce que je sais que j'ai tout en toi. J'ai tout pleinement en toi. Je te sais que s'il me manque un euro pour manger, je sais que tu vas mettre 100 euros dans ma poche. Je sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire, Seigneur, je sais. Que Dieu soit béni.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net